tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Tout cet été, chaque dimanche, pendant environ une heure, je vous propose un grand entretien pour prendre le temps de traiter des grands thèmes qui ont rythmé l'actualité de ces derniers mois. Politique, relations internationales, énergie, santé, sport. Nous parlerons de tous ces enjeux et des conséquences qu'ils ont dans notre quotidien. Aujourd'hui, je reçois Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, première femme à diriger le Parlement dans l'histoire de la République.
Europe 1, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
Vous avez, Madame, un itinéraire que je trouve hors norme, avec un parcours très diversifié. Vous avez été avocate pénaliste. Vous avez créé une start-up, vous avez eu aussi un engagement associatif fort au Resto du Cœur. Vous vous êtes expatrié 7 ans en Asie, au Japon et à Taïwan, aux côtés de votre mari. Et vous avez 5 enfants. Alors, pourquoi vous êtes-vous engagée en politique et que représente-t-elle pour vous, la politique ?
Bonjour à vous. Bonjour à tous. La politique, c'est l'engagement pour les autres. C'est être utile, c'est faire en sorte d'avoir un rôle dans la vie commune et dans notre vie ensemble, que ce soit dans une ville, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau d'un village. Je pense que chacun a une place à prendre et que chacun a un rôle à jouer pour les autres. Et pour moi, la politique, c'est ça, prendre sa part et essayer d'être le plus utile possible aux autres.
Et c'est un peu votre engagement de toute une vie, parce qu'avocate, pénaliste, les Restos du Cœur, vous avez eu un engagement fort, c'est votre tempérament.
C'est ça, c'est savoir pourquoi on est là, à quoi on sert, tout simplement. Et je crois que chacun de nous se pose cette question à un moment de sa vie, et c'est vrai que moi, c'est un peu le fil rouge de ma vie, servir, être utile, et savoir que aussi on peut avoir un impact sur la vie des gens. Et pour moi, cet engagement, il est tout aussi fort aujourd'hui à l'Assemblée que quand j'étais au Resto du Cœur, où finalement ma plus grande angoisse c'était est-ce que la distribution va bien se passer, est-ce qu'on va accueillir dignement chacune des personnes qui va se présenter au centre, est-ce qu'on va lui accorder suffisamment d'attention, est-ce qu'on a suffisamment de nourriture bien sûr à lui donner, mais pas que ça. Et je crois que c'est très important de pouvoir se dire qu'on peut apporter quelque chose à autrui, à travers différents engagements, mais ça peut être des engagements associatifs dans des associations sportives, culturelles, vous savez, offrir un sourire à quelqu'un, offrir un moment de plaisir, offrir des vacances, une journée de vacances à des enfants qui ne partent pas en vacances. Voilà, je pense que toutes ces petites choses font qu'on fait une société solidaire.
Vous venez de la gauche, vous étiez adhérente du Parti Socialiste jusqu'à votre adhésion à En Marche, et vous aviez confié dans des interviews avoir toujours voter à gauche. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche d'Emmanuel Macron et comment le situez-vous sur le plan idéologique ? Emmanuel Macron, bien sûr.
Tout d'abord, je voudrais juste faire une petite rectification. J'étais adhérente au Parti Socialiste pendant une année, il y a bien longtemps de cela. Mais effectivement, j'avais toujours voté à gauche parce que je crois profondément aux valeurs de solidarité, de soutien des plus fragiles. Et ça se retrouve dans l'engagement qui est le mien. Emmanuel Macron m'a séduit dans son discours, dans un double discours. Un premier discours qui était celui du dépassement des clivages, de dire, en fait, peu importe qu'une idée vienne de la droite, qu'une idée vienne de la gauche, ce qui importe, c'est de savoir si c'est une bonne idée et si elle est utile, et si elle est utile au pays. Et si c'est une bonne idée, il faut que nous réunissions toutes les énergies pour faire prospérer cette bonne idée. Donc ça, c'est la première chose qui m'a séduite. La deuxième chose qui m'a séduite chez lui, c'est l'appel à la société civile, justement, à l'engagement. Dire, vous pouvez tous prendre votre part, et la politique n'est pas réservée aux professionnels, n'est pas réservée à ceux qui veulent y faire carrière et considèrent finalement que c'est quelque chose qui est acquis et qui est à eux. Ça n'est pas une propriété, la politique. Elle appartient à tous parce que c'est une belle chose. Et donc, son appel à la société civile, son appel aux femmes, et Emmanuel Macron est celui qui a permis la plus grande féminisation du Parlement qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Donc, ces deux appels aux femmes et au dépassement des clivages m'ont séduite et m'ont fait le rejoindre et rentrer vraiment en politique.
L'appel à payer, puisque vous êtes présidente de l'Assemblée nationale, première femme dans l'histoire de la République. C'est vrai, il faut le souligner, parce que c'est quand même un événement. Mais dans votre choix, dans votre démarche, on a le sentiment que vous voulez participer à la valorisation de la fonction politique. Est-elle dévalorisée d'ailleurs, cette fonction ?
Oui, nos concitoyens pensent parfois, vous savez, ils utilisent souvent le mot politicien au lieu de politique. Et le mot politicien a une connotation assez négative. Alors que la politique, c'est beau. La politique, c'est s'occuper du vivre ensemble. Et on a besoin d'hommes et de femmes politiques à tout niveau. Dans une commune, un maire fait de la politique, les élus municipaux font de la politique, même s'ils ne sont pas encartés dans un parti, même si ils sont de simples citoyens. Mais en fait, nous sommes tous de simples citoyens. Donc la politique, c'est l'engagement d'hommes et de femmes qui se disent qu'ils peuvent être utiles et qu'ils le font bien souvent de façon très désintéressée.
Alors j'espère que vous connaître un peu plus sera utile ce matin. La gauche dont vous êtes issu, on vient d'en parler, a souvent fait au président de la République le reproche de pencher vers la droite. On l'a caricaturé en président des riches. À l'aune de votre sensibilité, est-ce que vous comprenez ces appréciations à l'égard d'Emmanuel Macron ?
Alors non, à un double titre. Le premier, c'est que nous, ce que l'on prône et ce que l'on fait depuis 5 ans, c'est justement ce dépassement des clivages et considérer que la grille de lecture droite-gauche n'est plus la bonne aujourd'hui et qu'il doit y avoir, et on le voit, d'autres lignes de fracture que celle-ci. Et par ailleurs, la politique que le gouvernement a menée pendant 5 ans est une politique qui a été en faveur des plus démunis. Lorsque l'on crée des centaines de milliers d'emplois, cela profite aux personnes qui sont exclues du marché de l'emploi et qui vivent des minima sociaux. Et grâce aux créations d'emplois, elles retrouvent la capacité de travailler, de générer un revenu par leur travail et par leur action. On a également augmenté tous les minima sociaux qui sont des augmentations qui sont assez importante. Et là, nous souhaitons créer un revenu, l'automaticité, des aides sociales, quand on sait que de nombreuses personnes ne touchent pas toutes les aides auxquelles elles ont droit parce que c'est compliqué, elles ne remplissent pas les dossiers, elles sont rayées des listes parce qu'une case n'a pas été cochée ou parce qu'il y a un document manquant, parfois parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont droit à telle ou telle aide. Moi, je les voyais tous les jours au Resto du Cœur, des gens à qui il manquait l'allocation adulte handicapé, l'allocation logement, l'allocation parents isolés. Donc si nous arrivons, et c'est un engagement très fort du président de la République, à créer ce versement automatique de ces aides, c'est des centaines de milliers de nos compatriotes les plus fragiles qui vont avoir des hausses de revenus simplement en touchant ce à quoi ils ont droit.
Alors, on aperçoit quand même qu'il vous reste pas mal de votre élan des Restos du Cœur. Dans votre parcours, qui est aussi riche que varié, il y a cette parenthèse de 7 ans, hors de France, en Asie, au Japon et à Taïwan. Est-ce que vous partagez l'idée du déclin de l'Occident face à la montée en puissance de la zone Asie-Pacifique, ou la réalité vous apparaît-elle plus nuancée que ça ?
La réalité est toujours très nuancée. Ce que l'on peut constater, c'est que il y a de nombreux pays dans le monde, de nombreuses démocraties qui ne fonctionnent pas du tout comme nous et pour autant qui fonctionnent très bien. Et c'est ça que je trouve très intéressant lorsque vous vivez à l'étranger, c'est que ça vous permet de vous décentrer et de constater que d'autres peuvent faire différemment et que ça n'est pas pour autant plus mal. Et donc, ça vous permet de relativiser, de pouvoir constater que notre pays fait de très grandes choses et que parfois, il y a des choses qui marchent moins bien, qui marchent mieux ailleurs et dont on pourrait aussi utilement s'inspirer. Donc je trouve que ça ouvre grandement l'esprit de pouvoir avoir cette chance de vivre à l'étranger, notamment en Asie.
Mais en même temps, l'écart n'est pas aussi grand que certains veulent le croire. C'est ça que vous dites.
C'est cela que je dis, et c'est aussi qu'il y a parfois certaines choses qui sont assez remarquables. Moi, je vois le système de santé japonais, le système éducatif japonais, dont on sait qu'il est extrêmement compétitif, mais en même temps, on voit que les élèves ont une conscience aiguë de leur place dans leur école, de leur école également. Moi, je voyais des jeunes, et au Japon et à Taïwan, à l'automne, balayer les feuilles mortes devant l'école, parce que c'était des missions qui incombaient aussi aux élèves. Je trouve que c'est des choses qui sont... Je ne veux pas dire qu'il faut forcément s'en inspirer et mettre nos petits élèves au travail dans les écoles, mais il y a un respect, en fait, des institutions, d'un collectif qui semble être en tout cas assez intéressant.
Alors je rappelle que je suis avec la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, et nous allons nous retrouver dans quelques instants.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Je rappelle que nous sommes en grand entretien avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Madame, en 2017, vous devenez députée des Yvelines et présidente de la commission des lois, poste d'habitude réservé à un parlementaire expérimenté. Je trouve que c'était un pari audacieux, brigué, un poste aussi exposé, sans mieux connaître les codes et la technique parlementaire. Pourquoi ce choix, qui est audacieux, je le rappelle ?
Toujours le même engagement qui me guide, l'envie d'agir le plus possible. Et donc, au Parlement, il est vrai que lorsque vous prenez des responsabilités institutionnelles telles que président de commission, vous allez pouvoir agir davantage. Et en tant qu'avocate, en tant que juriste, il me semblait que ça n'était pas inatteignable parce que la procédure
vous
parlementaire...
Êtes
Je ne sais pas si je suis gonflée, mais
vous êtes audacieuse,
en tout cas,
quoi,
je suis audacieuse. Voilà, je pense qu'il faut prendre son risque et il ne faut pas rester, comme dirait le président de la République, des assis. Moi, je me suis engagée pour agir, je me suis engagée pour servir. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit que je pourrais être... utile aux autres, parce que j'avais l'habitude de manager une centaine de bénévoles dans mon centre des Restos du Cœur, parce que j'aime le droit, j'aimais intuitivement le Parlement, et je me suis dit que le moment était au renouvellement, le moment était à la prise finalement de responsabilité. Quand vous faites de la politique, ce n'est pas pour rester confortablement installé, c'est vous prenez des risques et vous prenez votre risque. Et donc, je me suis présentée et il y a eu une élection. Donc, vous savez, ce ne sont pas des nominations lorsque vous accédez à ce type de poste. Donc, mes collègues m'ont fait confiance en 2017. C'est eux, finalement, qui ont pris un risque plus que moi.
Oui, mais vous vous souvenez de vos débuts ? Vous avez été parfois raillé par l'opposition, y compris, je l'ai remarqué, dans votre propre camp.
Ouais.
Comment vous avez vécu cette période comme une forme de sexisme ordinaire ? L'expression d'une forme de jalousie ou tout simplement une épreuve du feu à laquelle vous vous attendiez ?
Un peu des trois, en fait. Je pense que vous le définissez bien. Il y a nécessairement un peu de sexisme. Considérer qu'une femme, quand elle accède à cette responsabilité, est par nature incompétente pour l'exercer. Je pense qu'il y avait de cela. Il devait y avoir un petit peu de jalousie, un peu de bizutage aussi des nouveaux élus République en marche à l'époque par nos oppositions. Et puis, finalement, je les comprends. Ils voient une femme nouvellement élue qui n'a jamais siégé, qui va occuper ce poste dit très prestigieux et à forte responsabilité.
La commission des lois.
Voilà, ça interroge, ça interpelle. Mais moi, ce que j'ai apprécié chez mes collègues, membres de la commission de tous bords, c'est qu'ils m'ont donné ma chance. Ils ne sont pas restés sur cette idée préconçue. Et très vite, nous avons pu mener des actions communes. J'ai organisé, dès le mois de novembre, des visites conjointes de prison sur le terrain. Ça n'avait jamais eu lieu. J'ai eu une quarantaine de parlementaires de
tous
bords.
C'était pour C'est une forme de contrôle ?
C'est une forme de contrôle. C'est aussi pour montrer ce que c'est que la nuance. Parce que sur les prisons, on dit toujours les prisons sont comme cela, les prisons sont comme cela.
Oui. Et en fait, 3 étoiles, 5 étoiles, etc.
Ou alors il y a des rats qui courent.
Oui, c'est
et
ça.
En fait, eh bien, on se rend compte que c'est un peu tout ça aussi. Et que selon la prison, selon l'endroit sur le territoire, eh bien, elles sont diverses. Et selon le regard aussi qu'on va porter sur elles. Et faire cette journée conjointe de visite sur tout le territoire, même en Outre-mer, je me rappelle, Huguette Bello, qui est maintenant présidente de la région à La Réunion, avait été visiter le centre de détention à La Réunion. Et vous voyez, tout le monde a joué le jeu, quel que soit son parti. Donc je pense que mes collègues ont très vite dépassé leur a priori à mon égard, m'ont fait confiance, et puis nous avons appris à travailler ensemble.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi prendre l'initiative d'aller voir sur le terrain ce qui se passe pour un parlementaire ? Parce que finalement, ce n'est pas la fréquentation seulement de l'hémicycle, c'est la fréquentation de ce qui se passe sur le terrain, comme un élu local. Quoi.
Tout à fait. Les parlementaires, pour bien légiférer, pour bien contrôler l'action du gouvernement, doivent être sur le terrain et doivent être en connexion avec les citoyens et avec tous les acteurs. Pour reprendre l'exemple de la prison, quand vous travaillez sur les prisons, rien ne vaut le fait d'aller dans des établissements pénitentiaires et d'en visiter plusieurs. Mais ça vous permet aussi de discuter avec les surveillants qui sont sur les coursives. Ce ne sont pas eux que vous auditionnerez à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous allez entendre les responsables syndicaux, etc. Vous n'entendrez pas le surveillant de la coursive. Et en allant le voir, discuter avec lui, mais vous en apprendrez aussi beaucoup. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est le travail à l'Assemblée qui est vital. C'est l'hémicycle, c'est la commission, c'est les auditions. Mais c'est aussi le parlementaire sur le terrain, ancré dans la réalité et en connexion avec les citoyens, à l'écoute des citoyens, dans le dialogue avec eux. Et c'est comme ça qu'on représentera bien nos concitoyens et qu'on accomplira au mieux notre mission.
Mais est-ce que vous avez eu conscience aussi qu'en fait, vous étiez en train de briser l'idée qu'on a de l'élite, notamment l'élite parisienne, l'élite parlementaire, qui est très loin de tous les problèmes de la vie quotidienne des citoyens?
Mais parce, à nouveau, je pense qu'on se fait une fausse idée des hommes et des femmes politiques. On a l'impression d'abord que la politique les définit entièrement. Alors peut-être que parce que quand ils étaient professionnels, c'était leur vie et toute leur vie, rien que leur vie. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Nous sommes des hommes, des femmes qui avons des parcours différents, qui avons des vies personnelles, qui avons nos lots de difficultés, de contraintes. Et je crois que c'est ça aussi que les Français doivent bien sentir, c'est que nous sommes comme eux. Il n'y a pas les gens de là-haut et les gens d'en bas. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai été élue présidente de l'Assemblée nationale, j'ai prononcé un discours où j'ai parlé de mon parcours familial, de là où d'où je venais, pour montrer qu'il y a des multiplicités de parcours et qu'il faut parfois aller un peu gratter derrière l'apparence ou le vernis ou l'idée qu'on se fait d'une personne, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît.
Alors, je vais demander à la présidente de l'Assemblée nationale de se souvenir de sa fonction de présidente de la commission des lois. Et est venue devant cette commission des lois l'affaire Benalla. Autant la commission d'enquête du Sénat s'est montrée pugnace, autant celle de l'Assemblée nationale, que vous présidiez à l'époque, s'est révélée en retrait. Du moins, c'est la critique qu'on vous a adressée. Avec le recul du temps, est-ce que vous avez des regrets sur la manière dont vous avez exercé alors vos responsabilités? Et cet épisode, madame, vous a-t-il conduit à modifier l'approche de votre fonction?
Alors, tout d'abord, sur cette affaire, moi j'ai toujours considéré qu'elle relevait de la justice et que la justice devait faire son œuvre. Et M. Benalla a été à plusieurs reprises mis en examen et condamné par les tribunaux, et la justice a pu travailler sereinement. C'est ce qui est important, et il est bien important de comprendre que le Parlement et que les commissions d'enquête parlementaire ne doivent pas se substituer à cette justice qui a fait son travail. Le constat que j'ai fait à l'époque, et on le voyait, c'était saisissant, c'était que, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'ambiance n'était pas la même. Et qu'à l'Assemblée nationale, la commission s'est retrouvée survoltée. avec une présence très forte et avec des prises de position des uns et des autres.
Vous pensez à qui, présence très forte ?
De tous les députés. Ma commission était remplie. On ne pouvait plus s'asseoir. On était obligé d'ajouter des chaises. J'étais obligé de faire lever des députés extérieurs
à
la commission.
C'est vrai, je me souviens des images.
Rappelez-vous, c'était incroyable. Et en fait, c'était survolté, les gens parlaient fort, c'était, faut se le dire, tout le monde a joué un rôle et a profité de cette affaire pour l'instrumentaliser à son profit. Et donc, à l'Assemblée nationale, nous n'avons jamais réussi à avoir des débats sereins, apaisés, où on recherche vraiment à démonter le mécanisme de cette affaire. Et donc, on a constaté, mais Guillaume Larrivé, qui était rapporteur avec moi, l'a constaté
des
tout autant, des Républicains, qu'on ne pouvait pas fonctionner de la sorte et que c'était vain. Et donc, il a été jugé utile de cesser. Mais à nouveau, moi, ce qui m'importe, c'est que la justice ait pu passer dans cette affaire parce qu'elle le méritait.
Alors, je rappelais l'affaire Benalla, les critiques qu'on vous a adressées. Vous vous êtes ensuite imposé à la tête de la commission des lois, notamment, et vous l'avez rappelé auparavant, en prenant des initiatives spectaculaires de visites simultanées par les parlementaires d'une trentaine de prisons françaises. Et vous avez, en quelque sorte, illustré la fonction de contrôle. Est-elle, cette fonction de contrôle, l'avenir du Parlement ?
Je crois, oui, que c'est un rôle que les parlementaires doivent de plus en plus endosser. C'est du contrôle sur le terrain, c'est du contrôle à l'Assemblée nationale en procédant à des auditions de ministres. Moi, j'en avais fait un certain nombre à la suite d'événements où l'on se pose des questions sur l'intervention de l'administration et du gouvernement. Demander à un ministre de venir devant la commission pour s'expliquer devant la représentation nationale et par là même devant les Français, ça me semble fondamental. C'est aussi l'objet des questions au gouvernement que nos concitoyens peuvent suivre, où justement l'opposition et la majorité peuvent questionner le gouvernement qui doit répondre parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est le pendant de cette mission de contrôle. Cette mission de contrôle, elle est importante parce que aussi nous avons besoin de nous assurer, nous parlementaires, de l'effectivité des lois que nous votons. Nous ne pouvons pas voter des lois et se satisfaire qu'elles soient posées sur une étagère et que l'on a bien travaillé dans l'hémicycle. Les lois que nous votons doivent être appliquées, doivent être correctement appliquées, et il nous revient de nous assurer de cela, donc par des travaux d'évaluation que nous faisons au Parlement, mais évidemment par des visites de terrain et par une présence accrue pour justement s'assurer de cette effectivité-là. Autrement, on ne sert à rien, et les lois que nous votons ne servent à rien.
Mais alors, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que la Convention citoyenne pour le climat et aujourd'hui le Conseil national de la refondation voulue par le Président de la République signifie-t-elle une volonté de limiter, de marginaliser, je dirais, le Parlement ?
Je crois qu'il faut ne pas avoir de méfiance a priori vis-à-vis d'initiatives démocratiques qui visent à faire délibérer les gens ensemble, à les faire réfléchir sur des sujets et faire en sorte que des gens qui d'habitude ne se parlent pas vont se parler. Donc moi, ces initiatives, les trouve intéressantes finalement par nature, puisque vous l'avez rappelé, moi j'aime bien aller explorer et défricher des sentiers qui n'ont pas été auparavant. Maintenant, l'enjeu de ces initiatives et de ces différentes organisations, c'est de bien se combiner avec le Parlement et avec les institutions d'une façon générale. Et donc notre rôle, c'est d'articuler correctement ces différentes institutions pour faire en sorte que justement il n'y ait pas de concurrence entre elles, qu'il n'y ait pas de chevauchement, de piétinement. En revanche, on peut s'apporter les uns les autres beaucoup de choses, mais pour autant que ce soit bien coordonné et bien articulé.
Alors, nous allons marquer une deuxième pause publicitaire et ensuite je voudrais qu'on aborde le fait que première femme de l'histoire de la République à la tête du Parlement, vous êtes au-dessus d'un volcan parlementaire.
Europe 1, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, je le rappelle, peut-être trop souvent, mais vous êtes la première femme présidente de l'Assemblée nationale dans l'histoire de la République. Vous voilà donc en 2022, éphémère ministre des Outre-mer, puis à la faveur de la défaite inattendue de Richard Ferrand aux législatives, vous êtes propulsée par vos pairs, il faut le rappeler, par vos pairs, au perchoir de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, première femme à occuper cette fonction qui est une fonction prestigieuse. Alors, ma première question pour ouvrir ce chapitre sera toute simple. À qui et à quoi vous avez pensé lorsque vous avez été élu?
J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes grands-parents paternels qui étaient d'immigration polonaise et allemande, qui avaient fui le nazisme et qui s'étaient installés en France avec des visas touristes, sans parler le français, et pendant la guerre, avaient été dans la résistance, avaient été décorés et étaient devenus français après-guerre avec mon père qui était né pendant la guerre. Et j'ai pensé à eux en me disant quelle fierté quelle fierté ils auraient ressenti à ce moment-là en voyant leur petite fille à cette fonction-là, parce que c'était ils aimaient la France par-dessus tout, et c'est aussi le symbole de la réussite républicaine, de la réussite par les études, de la réussite par l'effort et de l'intégration dans le pays d'accueil qu'ils avaient choisi. Et donc c'est à eux que j'ai pensé, et puis bien sûr à mes parents qui étaient eux devant moi, et à mes enfants qui étaient là également, et mon mari bien sûr, autrement il m'en voudra si je ne cite pas son nom.
Et vous avez 5 enfants,
il ne faut pas l'oublier. J'ai 5 enfants, ils étaient tous là.
Et comme quoi l'intégration est possible?
Comme quoi l'intégration est possible, comme quoi la République offre des beaux parcours et cette capacité à pouvoir s'élever à travers son travail, à travers les études. Et je crois que c'est ça la promesse républicaine aujourd'hui.
Alors on va parler un peu de vos devanciers sur le travail de la présidente de l'Assemblée nationale. À Jacques Chaban-Delmas, bien sûr, plus près de nous à Philippe Séguin. Et à Laurent Fabius, président aussi de l'Assemblée nationale. Et quelles sont, d'après vous, les qualités premières d'un grand président de l'Assemblée?
C'est de respecter chaque élu qui siège dans cet hémicycle, respecter les équilibres, être le plus impartial possible pour conduire les débats, pour organiser le travail à l'Assemblée. Et c'est respecter l'institution, parce que c'est une institution qui nous protège, qui protège les droits et libertés de tous. C'est là où s'exprime la démocratie. Et puis, c'est respecter chaque citoyen de notre pays qui, par son vote, a élu un des parlementaires qui siège dans cet hémicycle. Donc, voilà, être très respectueuse de l'institution et de chacun.
Alors, je parlais de vos devanciers, il se trouve que j'en ai connu un très très bien, puisque nous avons fait une partie de nos études ensemble, c'est Philippe Séguin. Et Philippe Séguin, qui est considéré comme un bon président de l'Assemblée nationale, disait toujours, tu sais, il faut respecter et garantir les droits de l'opposition. C'est plus important que d'avoir l'approbation du groupe majoritaire. Vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, je vous parlais à l'instant de respect. En fait, vous savez, à l'Assemblée nationale, vous avez encore plus aujourd'hui une multiplicité d'opinions politiques, et vous avez des parlementaires qui viennent de tous les coins du monde, puisque nous avons des parlementaires ultramarins qui viennent de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de chaque coin de France, et tout le monde se retrouve à l'Assemblée nationale sur ses bancs. Et c'est vrai que cette vision de la démocratie très concrète, c'est quelque chose qui est très précieux. Et il faut vraiment s'assurer, et c'est vraiment mon rôle, que chaque groupe politique est traité de façon la plus équitable possible, qu'il a le droit d'expression comme tous les autres. Et c'est le rôle du président d'organiser cela le plus sereinement possible, de faire en sorte que notre démocratie vive, fonctionne et produisent quelque chose qui soit utile à nos compatriotes. Il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas que nous soyons uniquement repliés sur nous-mêmes et tournés sur nous-mêmes. Nous devons à chaque minute penser que nous devons agir pour nos compatriotes.
Alors, je rappelle que peu de gens le savent, ou en tout cas l'imaginent, que vous êtes la seule à ne pas être nommée par le président de la République. C'est quand même. Est-ce que ça vous donne une liberté de parole plus grande que vos camarades ?
Ah mais, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, je suis élue par des députés qui eux-mêmes ont été élus. Donc j'ai une double légitimité, puisque j'ai été élue par mes concitoyens, puis par mes pairs. Et ma fonction m'impose une vraie liberté de parole et de prise de position, parce que c'est l'institution que je représente. D'une certaine façon, je ne m'appartiens plus totalement lorsque je m'exprime, parce que je parle et j'engage l'Assemblée nationale tout entière dans sa diversité.
Alors, quand on regarde votre parcours, c'est bien tombé, en fait. Alors, vous héritez, si j'ose dire, d'une assemblée sans majorité absolue, d'une diversité politique et sociologique inédite sous la Ve République. Est-ce que cette situation ne renforce pas le pouvoir d'arbitrage et le rôle d'influence de la présidente ?
Je pense effectivement que dans cette assemblée inédite, nous avons beaucoup de choses à inventer, parce que comme vous le dites, elle n'a pas de majorité absolue et elle est aussi d'une diversité inégalée avec 10 groupes politiques qui la composent et la constituent. Donc effectivement, nous devons inventer une nouvelle façon de fonctionner qui fasse plus place au débat, à la concertation en amont, au travail préparatoire en liaison avec le gouvernement. Et la présidente de l'Assemblée nationale que je suis a un rôle majeur à jouer pour que tout cela s'organise bien et puisse produire des effets. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à faire une Assemblée nationale qui débatte plutôt qu'elle ne se batte, qui produise des textes de loi qui sont après appliqués sur le terrain par le gouvernement, et une Assemblée qui puisse répondre vraiment aux attentes des Français, puisque, je vous le rappelle, c'est les Français qui ont voulu cette Assemblée-là. C'est les Français qui ont voulu avoir une Assemblée qui représente tous les courants politiques. Et donc, nous devons, au premier chef, respecter leur volonté.
Alors, ça tombe bien, puisque vous avez déclaré il y a quelques jours que vous ne vouliez pas d'une Assemblée trop lisse. Mais est-ce que le véritable danger n'est-il pas d'avoir une Assemblée trop tapageuse, où le chahut permanent, les invectives et les insultes prennent le pas sur le débat démocratique ? Le spectacle donné depuis quelques semaines ne risque-t-il pas, à terme, d'alimenter l'anti-parlementarisme ?
C'est un juste danger que vous pointez. Je ne souhaite pas d'une assemblée trop lisse, parce qu'une assemblée qui débat et qui confronte les idées, et on a des idées très opposées dans cette assemblée, donc c'est normal que cette confrontation d'idées, de projets, produise des débats animés. Mais pour autant, il ne faut pas de chahut, pour autant, il faut que chacun se respecte, et moi je suis et je serai très vigilante sur le respect qu'on doit aux autres, le respect aux autres parlementaires, mais le respect aussi qu'on doit aux Français en exerçant cette fonction de parlementaire, et respect qu'on doit à l'institution. Il ne faut pas que, effectivement, ce soit le chahut permanent. En revanche, il ne faut pas non plus que ce soit un silence trop appuyé lorsque chacun s'exprime. Il est normal que ce soit agité. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je veux une assemblée qui débatte.
Préférez le chaudron ?
Mais je veux surtout une assemblée qui débat. Si elle débat de façon apaisée, respectueuse, elle va produire quelque chose. Si elle débat de façon complètement éruptive, elle ne produira rien. Donc ça ne servira à rien. Et comme je vous le disais au début, moi, la source de mon engagement, c'est être utile. Donc je ne veux pas que ce soit le spectacle permanent ou le show permanent. Il faut que l'on prouve aux Français. Vous savez, on parle d'anti-parlementarisme parce que les Français... Parfois, certains Français pensent que l'on ne sert à rien. Mais à nous de leur prouver que nous sommes utiles et que cette Assemblée tels qu'ils l'ont voulu.
Il ne faut pas oublier que c'est là où on fait les lois aussi.
Avec le Sénat, bien sûr. Je suis en dialogue permanent avec mon homologue du Sénat. Gérard Évidemment, Larcher. Le Parlement, dans toutes ses composantes, doit pouvoir assumer pleinement sa fonction.
Alors, madame, le début de cette mandature a été marqué par quelques revers pour la majorité parlementaire, alliance des oppositions sur le renforcement du pass sanitaire aux frontières, vote du groupe Horizon, qui est placé sous l'influence du maire du Havre, ancien Premier ministre Édouard Philippe, contre le gouvernement au sujet de la compensation de la hausse du RSA pour les départements. Jusqu'où peut aller la volonté de bâtir des compromis sans fragiliser la cohésion de la majorité et affaiblir l'autorité du gouvernement? Parce que vous êtes aussi le garant de l'aboutissement des lois proposées par le gouvernement.
Au Parlement, il y a plusieurs façons de travailler. Les exemples que vous citez sont des moments dans l'hémicycle où, par le débat, justement, on voit que les lignes peuvent bouger, que les uns peuvent convaincre les autres. Et en l'absence de majorité absolue, on voit les majorités qui sont mouvantes et qui peuvent évoluer. Moi, je crois que, sans parler du fond des sujets que vous avez évoqués, je crois que c'est une bonne chose que rien ne soit joué quand on entre dans l'hémicycle, parce que autrement on ne sert à rien, puisqu'on est une chambre, et on nous le reprochait suffisamment d'être une chambre d'enregistrement. Donc il est important qu'il se passe quelque chose lors de ces débats et de ces délibérations. Pour autant, je pense que nous devons travailler beaucoup plus en amont et que les compromis structurels doivent pouvoir être travaillés et être créés en amont, avant cette étape dans l'hémicycle. Et donc moi, j'ai invité, et la Première ministre y souscrit, le gouvernement à travailler de façon beaucoup plus étroite avec les parlementaires de tous bords, pas seulement les parlementaires de la majorité, pour justement voir quels sont les points d'appui, quels sont les points de compromis, qu'est-ce qui finalement, sur tel ou tel projet de loi, peut nous servir de dénominateur commun, voyez. Et ce travail de concertation, de création du consensus, il peut se faire, mais il faut un peu plus de temps, il faut du dialogue, il faut créer les espaces de dialogue. Donc ça demande un effort de part et d'autre et une volonté de part et d'autre d'aboutir. Parfois, certains parlementaires ou certains groupes politiques ne souhaitent pas aller chercher le consensus et préfèrent être continuellement dans une opposition de principe ou une opposition forte. C'est leur droit. Chacun choisit la stratégie qui est la sienne. Pour autant, moi, je crois qu'on gagnerait à travailler de façon d'étirer un peu le temps, de plus concerter, de travailler de façon plus collégiale avec chacun pour essayer de bâtir des compromis qui éviteraient d'avoir des grands mouvements de balanciers dans l'hémicycle tardivement, lorsque justement l'hémicycle s'échauffe.
C'est un extrait de l'émission que vous devriez poster au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Cette cohabitation, cette concertation permanente avec ceux qui, en réalité, sont très directifs, souvent pour la constitution des
Mais
lois.
Mais vous savez, j'en ai parlé longuement avec Elisabeth Borne, notre première ministre, et elle est tout à fait d'accord sur cette nouvelle méthode. Je crois qu'on est, mais collectivement, rentré dans une nouvelle ère où les rôles vont un petit peu évoluer. En tout cas, moi, je suis vraiment garante, au nom de l'institution que je préside, de ce dialogue avec le gouvernement et entre tous les groupes.
Alors, on va marquer une dernière pause dans cette émission. Vous avez eu cette formule amusante qui, pour moi, témoigne de votre franchise et de votre liberté de ton. Ce n'est pas mon truc d'être chiante et autoritaire. On va revenir là-dessus après cette pause publicitaire.
Europe 1, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
Madame la présidente de l'Assemblée nationale, vous avez donc eu cette formule amusante qui témoigne de votre franchise et de votre liberté de ton. Ce n'est pas mon truc, je vous cite, d'être chiante et autoritaire. Alors si les débats s'éternisent, que les esprits s'enflamment et que l'obstruction parlementaire venait à paralyser l'hémicycle, saurez-vous faire violence et faire mentir cet adage.
Alors en fait, cet adage, c'est plus dans ma façon de travailler et d'être. C'est vrai qu'après, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, je suis ferme sur l'application des règles, sur la bonne tenue des débats, mais tout en étant souriante, parce que je trouve que ça ne sert à rien de manier le bâton. De toute façon, ça n'apporte pas
de
d'effet.
On n'oublie pas votre vocation première. Vous êtes une avocate pénaliste. Et vous avez fait partie d'un grand cabinet, d'ailleurs, Temim, qui est un ténor du barreau.
Un ténor du barreau, voilà. Oui, tout à fait. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai une autre technique, une autre façon pour exercer ma présidence. Et je recherche la bonne marche des débats, mais sans être autoritaire et sans être cassante. Je pense que ça n'est pas utile. Et puis, je crois que dans nos relations humaines, on a suffisamment de poids et de responsabilité pour ne pas en plus être chiant et de mauvaise humeur.
Très bien. Parfait. On enregistre. Hein.
Tout à fait. Mais j'assume.
Alors, la démocratie française semble en crise. Abstention, violence contre les élus, déconnexion entre la politique et le citoyen. Certains même appellent à une sixième république. D'autres veulent refonder les institutions. Pour vous, le chantier de la réforme institutionnelle est-il prioritaire et quels devraient être les principaux axes ?
Pour moi, il est effectivement prioritaire parce que personne, que ce soit les citoyens ou les hommes et femmes politiques, ne peuvent se satisfaire d'un taux d'abstention qui ne fait que croître, d'une confiance envers les politiques qui ne fait que décroître. Et nous devons absolument nous ressaisir collectivement et revivifier notre démocratie. Donc je pense qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler, notamment celui de la participation citoyenne, d'avoir une meilleure interaction entre les citoyens et la chose publique qui ne soit pas que dépendante des moments d'élection de leurs représentants, donc plus de référendums, plus de consultations citoyennes, locales ou nationales.
C'était une revendication des Gilets jaunes.
C'était une revendication des Gilets jaunes à travers ce qu'on appelle le RIC. Moi, je pense qu'il faut plutôt travailler sur ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, qui permet justement... Et rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, je ne veux pas opposer, mais je veux mieux articuler et combiner. Le RIC, c'est les citoyens, tout seuls. Le RIP, c'est les citoyens et des parlementaires. Et là, je trouve que de combiner la parole citoyenne et la parole des élus représentant les citoyens, je trouve que là, c'est intéressant. Il faudrait pouvoir y recourir
plus
fréquemment.
C'est complémentaire, d'ailleurs.
C'est complémentaire.
C'est pas opposé.
Exactement, c'est ça. C'est complémentaire, c'est pas opposé. Après, je pense qu'il faut qu'on travaille sur les modes d'élection, les représentations, sur notre organisation territoriale, évidemment, sur des questions de justice. Et on a préconisé, à travers les États généraux de la justice, un certain nombre d'évolutions institutionnelles sur la Cour de justice de la République, sur le statut du parquet, etc. Donc, il y a des sujets institutionnels qui sont devant nous, pour lequel le président de la République a souhaité créer une commission transpartisane qui regroupe les courants politiques pour justement voir quels sont nos points d'accord et quelles sont les évolutions que nous pouvons partager. Et évidemment, l'Assemblée nationale, mais comme le Sénat, nous aurons un rôle primordial à jouer au sein de cette commission pour voir si nous sommes en capacité, ensemble, d'avancer sur une rénovation de nos institutions.
Vous avez évoqué la Cour de justice de la République et quelles seraient les modifications possibles autour de... Il faut rappeler ce que c'est la Cour de justice de la République.
Tout à fait. La Cour de justice de la République est une juridiction qui est destinée à juger les hommes et les femmes politiques qui auraient commis des délits ou pénaux dans le cadre et dans l'exercice de leur mission au gouvernement. C'est une juridiction qui a toujours été beaucoup critiquée parce que elle fonctionne comme elle fonctionne, mais en tout cas pas forcément très très bien. Et surtout, elle peut donner l'impression que les politiques jugent les politiques et donc que c'est un entre-soi. Donc au sein des États généraux dont je faisais partie, nous avons préconisé à l'unanimité sa suppression. pure et simple. Nous verrons ce qu'il en sera dans le cadre justement de ces réformes institutionnelles. Est-ce que cette proposition du comité des États généraux, là je change de casquette, recevra l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Sénat? Là il faudra en délibérer. Mais c'est une proposition que l'on a formulée.
Mais vous, Madame la Présidente, vous êtes pour la disparition de la Cour
de justice ? Moi, je suis pour la disparition de la Cour de justice de la République, tout à fait.
Alors, parmi les grands défis de ce quinquennat, il y en a qui vous tiennent particulièrement à cœur, et notamment le droit à mourir dans la dignité. À quelle évolution législative seriez-vous favorable sur la question délicate de la fin de vie ?
Alors, la question délicate de la fin de vie, comme vous le dites, c'est un sujet qui traverse la société et qui traverse les familles françaises dans ce qu'elles ont de plus cher, qui est leur fin de vie, la fin de vie des personnes qu'elles aiment. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons avancer sur cette question en permettant à chacun justement de choisir cette fin de vie. Et de pouvoir recourir à une euthanasie si des conditions que nous définirions dans la loi sont remplies de maladies qui malheureusement a conduit à un diagnostic engageant la vie dans des souffrances qui ne sont pas apaisables. Donc nous avons travaillé, il faudra que nous continuions ce travail, mais moi je crois que nos concitoyens attendent cette loi, qu'ils attendent cette capacité à pouvoir choisir librement la façon dont ils veulent terminer leur jour, et que cette loi n'enlèvera rien à personne. C'est-à-dire que certains disent « mais nous n'en avons pas besoin, nous Je crois que c'est un pas de plus, c'est une liberté de plus, mais qui reposera sur le choix de chacun. Et donc, moi, je crois qu'il faut faire confiance à nos concitoyens. Il faut justement ne pas leur dicter la façon dont ils doivent vivre et ni la façon dont ils doivent mourir.
Et vous sentez qu'au Parlement, il y a une majorité qui puisse se dégager en faveur, justement ?
Je le crois, oui. Lorsque nous avions traité ce sujet pendant la précédente mandature, nous avions une majorité qui s'était dégagée pour voter un article loin d'une proposition de loi qui était portée par Olivier Falorni. Et moi, à cette occasion, j'avais pris position favorablement à cette proposition de loi. Et je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien de concitoyens, que ce soit habitant ma circonscription ou au-delà de toute la France, pour me dire qu'il était temps d'avancer sur ce sujet. Donc moi, je crois que la société aujourd'hui est mûre. Il faudra, et bien sûr, il faudra travailler sur toute la question de l'accès aux soins palliatifs. Et vous voyez, encore une fois, moi, je ne suis pas celle qui oppose les soins palliatifs et le droit de choisir sa fin de vie. C'est de dire que, en fait, il faut offrir les deux à nos concitoyens et que chacun aura le droit de choisir. Et que c'est ce choix qu'il faut leur offrir.
Vous voulez être la présidente du compromis ?
Je veux être la présidente du consensus.
Alors, je vais conclure, comme j'en ai l'habitude, par une question plus intimiste. Vous êtes passionnée de voile.
Ouais.
J'aime le vent, je vous cite, « J'aime le vent, les éléments et les intempéries », avez-vous dit à ce sujet. Faut-il voir dans cette formule une métaphore de ce qui vous attend dans les 5 années qui viennent au perchoir ? Et en attendant que vous ne subissiez les embruns de l'hémicycle, aurez-vous cet été le loisir de naviguer un peu sur l'océan
Alors j'espère
ou la Méditerranée
que... Sur l'océan, j'espère que j'aurai l'occasion de naviguer quelques jours. Mais on rajoutera que pour faire face justement au vent, aux intempéries, en fait, on a besoin d'un équipage. Et moi, je ne suis pas une navigatrice solitaire. Je navigue toujours avec un équipage, soit des amis, soit surtout mes enfants et mon mari. Et c'est ça que j'aime aussi
Cinq
dans
enfants,
la voile.
Je
Cinq
me
enfants, donc ça me fait beaucoup de matelots. Mais c'est ça que j'aime aussi dans la voile, c'est que c'est un travail d'équipe. Chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer et ça ne marche que si tout le monde est bien coordonné. Et c'est important parce que après, quand vous faites de la voile, vous ne pouvez pas tout prévoir. Mais en revanche, si vous avez un équipage qui est sûr, un bateau qui est sûr, vous pouvez tout traverser.
Alors, bon vent, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale.
Merci à vous.
Les grands entretiens sur Europe 1.